Théâtre,
musique,
danse,
culture.
Et pour la clôture de la saison 2024-2025,
un plateau radio en direct de la Jeunesse Verte
à partir de 18h30.
Et le bar est ouvert.
Et bonjour à toutes et tous, bienvenue sur Radio Barthas, bienvenue sur le 107, si vous nous rejoignez, nous sommes en direct de la Jeunesse Verte pour la clôture de la saison sur l'invitation de Sébastien Kuhn, le directeur artistique. Salut Seb.
Salut Ben.
Ah, est-ce qu'on est bien en fin de saison comme ça? Est-ce qu'on a envie de se poser? Est-ce qu'on est tranquille?
Écoute, on est pas mal, ouais.
Avec une belle saison 25-26 qui s'annonce?
Ouais.
Écoute, tu vas être le fil rouge de cette émission, puisque tout à l'heure, en fin d'émission, on parlera forcément de la saison. Tu nous prépares quand même des belles surprises.
Je sais pas si c'est des surprises, mais il y a des trucs qui me plaisent en tout cas.
Et en tout cas, voilà, c'est le dernier spectacle. Ils nous font le plaisir d'être avec nous sur le plateau, j'allais dire sur scène, mais non, on va attendre encore 20h30, c'est le spectacle tout à l'heure. Merci d'être avec nous. Le dernier spectacle de l'année s'assuré de ses propres murs, de et par Julien Clément. Julien, bonjour.
Oui, bonjour.
Et Pierre Paulet, bonjour.
Salut.
Toi, tu es batteur.
Exactement.
Merci vraiment à tous les deux d'être là. Comment on se sent comme ça, allez, on va dire, quasi 2 heures de montée sur scène? Est-ce qu'on stresse encore ou est-ce que...
Oh, le stress, en tout cas pour moi, il n'a pas commencé à monter encore. Je suis encore vaporeux de la sieste, là.
Moi, ça monte, mais je crois que c'est le stress de vous parler.
Ça va bien se passer. J'ai pas de questions pièges, normalement. S'assurer de leur propre murmure, d'ailleurs. Hein. C'est bien ça, le...
Non, c'est pas ça. C'est s'assurer de ses propres murmures.
Ses propres murmures. Ouais. On va en parler du titre tout à l'heure.
Si tu veux.
Quelle a été l'impulsion de départ pour ce spectacle?
Alors, l'impulsion de départ, je crois que c'est d'abord la rencontre directement dans le travail entre Pierre et moi. On a fait une première pièce il y a 10 ans ensemble, qui était une pièce collective où on était 7 jongleurs et jongleuses au plateau. Et un batteur, c'était Pierre.
Ouais.
Et avec de la musique médiévale non pulsée en plus. Donc, c'était déjà particulier. Et... À partir de là, il y a eu une espèce de rencontre humaine et rythmique, je dirais. Enfin, comme si le cœur battant du jonglage, pour moi, trouvait son expression vraiment avec quelqu'un qui était là en vrai, en chair et en os, à donner le feu, quoi. Et du coup, j'ai eu trop envie de continuer et je crois que c'était mutuel.
Complètement, ouais. C'est une rencontre, franchement humaine, ouais. Vraiment.
S'assurer de ses propres murmures, le titre, il est à la fois poétique et mystérieux. Ça signifie quoi pour vous de s'assurer de ses murmures?
Oui, c'est sûr que c'est super poétique. Ça vient d'un poète, d'ailleurs. C'est René Char, au début d'un de ses poèmes. Ça commence comme ça, s'assurer de ses propres murmures et mener l'action jusqu'à son verbe en fleurs. Et du coup, c'était tout un programme. Ça, c'était dans mes lectures perso. Je sais pas, c'est des trucs qui restent longtemps. Et j'aimais beaucoup ça. Ce poème, et en fait, petit à petit, en cherchant un titre, j'ai proposé ça à Pierre, qui l'a trouvé peut-être sympa.
Non, j'ai validé, hein, rapidement.
Et sur le fond, c'est quand même une espèce d'histoire, alors ça fait un peu sérieux, mais c'est comme une histoire de langage, de se dire, tiens, le jonglage peut, comme la musique, s'apparenter à une expression échangeable. Et du coup, comment on s'exprime, comment on écoute ce que dit et propose l'autre, et comment on se fait un accord global soi-même avec l'autre, et puis du coup porter vers le public en dernière envie, quoi.
Quand j'ai lu le titre de ce spectacle, je me suis dit, mais le mot murmure, ça renvoie à quelque chose de fragile, un peu de discret. Et comment vous le traduisez sur scène?
Alors ça, déjà, il faut venir voir le spectacle.
Hein. 20h30.
On va pas se
Il reste des places, Seb.
Tout à fait.
Il reste des places. Sur scène, c'est en vrai, le fil conducteur de ce spectacle, c'est une rencontre entre deux personnes et qui se proposent des choses mutuellement et avec un public qui est spectateur un petit peu de ça. Et il y a aussi ce fil où entre le jonglage et le rythme, il y a quand même, et la batterie, y a quand même
une espèce de similitude.
Complètement. Similitude entre les deux. Le jonglage, c'est vraiment du rythme autant que la batterie. Et on a essayé aussi de travailler sur le fait que le jongleur peut prendre le rythme de son côté pendant que le batteur. Enfin voilà, c'est comme ça. On s'échange en fait des. C'est un dialogue en fait, vraiment. Waouh.
Et peut-être aussi, bah, carrément, mais et pour rebondir sur ce que tu disais, sur la dimension peut-être de fragilité, ça se sent aussi du fait de cette espèce d'instant présent qui n'est pas voué à tout le temps réussir et où on a besoin du soutien de l'autre en fait pour pouvoir exprimer cette petite chose. En tout cas, moi, intimement, c'est globalement ce projet me permet de faire ça. Grâce à ce travail et à cette relation avec Pierre, c'est de montrer des choses que j'oserais peut-être pas montrer en tant que jongleur aussi abruptement.
Alors, quel genre de choses, justement ? Qu'est-ce que tu n'oserais pas montrer en tant que jongleur ?
Je pense que c'est juste, depuis ma position sur scène, d'être suffisamment ancré, suffisamment, je ne sais pas, confiant, animé. Ouais, animé peut-être, parce que la musique permet vraiment, vraiment de rencontrer son corps, de rencontrer le temps qui passe et de jouer avec ça. Ouais.
On va parler de vos deux disciplines qui sont à la fois éloignées et pas tant, puisque finalement on parle de synchronisation des membres pour un jongleur en fait, et désynchronisation des membres pour un batteur. Comment justement tout ça s'imbrique dans les choses en fait, et au final, mais je reposerai la question après parce que sinon ça fait deux questions et c'est trop long, mais comment vous avez travaillé tous les deux, c'est en impro, c'est comment ça se passe?
Ben en fait ouais, c'est des propositions qui viennent de tous les deux, et c'est-à-dire moi j'ai une idée rythmique par exemple, et qu'est-ce que Julien va pouvoir jongler dessus, et vice versa, Julien a une proposition jongler, et comment retranscrire, tu vois, cette jonglerie avec du rythme quoi. Et je pense que les propositions venaient de nous deux finalement. Et on a improvisé, enfin moi dans ce spectacle j'improvise pas mal, il y a beaucoup de choses écrites où on se rejoint, on a des endroits où on se rejoint, mais voilà, moi je suis musicien improvisateur, donc j'improvise beaucoup finalement. Et juste pour rebondir sur ce que disait Julien tout à l'heure, c'est vrai que cette peur peut-être d'être seul en scène, c'est-à-dire qu'on c'est pas, il y a un truc où on propose quelque part deux solos, tu vois, mais on les joue ensemble en fait. Et le fait d'être seul en scène, c'est t'es tout nu, donc ça peut être un petit peu compliqué. Mais là, il y a un truc où voilà, on est ensemble à proposer quelque chose, et il faut pas qu'on lâche l'affaire. Et ça c'est vraiment un truc très fort qu'on a.
Ouais, il y a aussi du coup entre nos deux disciplines, on a essayé de faire des rapprochements pour qu'on voit la batterie et qu'on entende le jonglage. Ce qui est des dimensions, enfin qu'on entende le jonglage, qu'on entende les frottés du corps, qu'on entende ce genre de choses, et qu'on voit non seulement la batterie mais aussi le batteur. Et du coup on est parti sur des trucs assez bruts de matière. On s'est dit, on a regardé la batterie. Pierre, il est complètement fan de la batterie, mais il la voit plus que comme un truc magnifique. Et moi, je trouve ça magnifique, mais j'y vois des bouts de bois, du fer, de la peau tendue. Et du coup, on a fait des rapprochements. Donc, j'ai des grands bâtons qui peuvent faire écho aux baguettes du batteur. J'ai des grelots qui font écho aux cymbales. La peau des balles, un peu cuir blanc.
Eh ben, ça rappelle les pots de batterie, la grosse caisse par exemple. Oui, c'est vrai qu'il y a. Ouais.
Et il y a la dimension aussi sonore des objets, quoi. Donc là, on a travaillé avec notamment pas mal de dispositifs micro pour pouvoir aller chercher, c'est un peu le sens de murmure aussi, mais aller chercher les sons du corps, les sons des frappes, les sons des grelots. Des fois, j'ai l'impression de pouvoir même être comme une première ligne de base rythmique. Et comme ça peut laisser justement, ça te laisse improviser et y aller dans le plaisir de l'instant, quoi. Et ouais, voilà.
Ouais, bah, exactement. Oui.
Quelle est la différence en fait de travailler comme ça avec un corps en mouvement plutôt qu'avec des instruments mélodiques, j'entends guitare, basse, batterie, puisque tu as fait partie de projets.
Ouais, moi je joue en groupe aussi. Je trouve qu'il n'y a pas forcément de différence en fait. Je trouve que le point commun, c'est que c'est live, c'est ce qui se passe quoi, tout de suite. Et c'est vrai que moi je joue dans des groupes où Et il faut improviser, parce que si je fais trois fois la même chose, je m'ennuie assez rapidement. et donc, il y a quand même ce rapport-là à la spontanéité, à l'instant. Il y a une écriture, mais cette écriture, en fait, elle peut partir à droite, à gauche, et on va se suivre ensemble. C'est un peu comme quand t'accompagnes un saxophoniste ou un pianiste qui improvise. Et ben en fait, c'est un dialogue qui se fait sur le moment, quoi.
Mais est-ce que, bon, par exemple, si tu laisses tomber un... Parce que tu te plantes dans le jonglage, Julien. Voilà, est-ce que toi, tu vas arriver et tu vas faire un petit claque, contrairement peut-être à un saxophoniste ou...
Je vais faire le petit claque aussi avec le saxophoniste. Mais voilà, le fait que la musique soit live, effectivement, ça permet ça, ça permet l'erreur. Et justement, l'erreur nourrit la suite. Et voilà, donc on est vraiment très focus l'un et l'autre. Surtout moi, sur ces erreurs, parce qu'une balle, bon, ça tombe. Hein, et quand ça tombe, voilà, on n'a plus que deux dans la main. Ou voilà, selon... et en fait, ça, l'erreur nourrit la suite. Et ça, c'est trop cool.
Julien, comment tu as fait évoluer ta manière de jongler en jouant avec un musicien live? Je ne sais pas si t'étais déjà arrivé avant. Est-ce que ça a évolué, en fait, et comment?
Alors, ça m'est déjà arrivé avant. Et c'est même quelque chose que j'ai envie de poursuivre. Et vraiment, ce lien jonglage-musique, je pense que c'est à la source de mon envie de faire du jonglage sur scène. C'est que le jonglage puisse se rapprocher de la musique d'une manière ou d'une autre. Et en revanche, ce que ça m'a fait de travailler avec Pierre, c'est vraiment de l'inscrire plus corporellement, encore plus au présent, plus qu'est-ce qui se passe, effectivement l'accident, la possibilité de ne pas faire exactement ce que j'avais prévu. Se dire, tu vois, Pierre, ça fait plus de 30 ans qu'il bat, moi, ça fait plus de 30 ans que je jongle. Se dire, tiens, on se libère aussi un petit peu de ça pour être tous les deux à cet endroit-là maintenant. Ce qui n'est pas exactement la même chose quand je travaille avec d'autres jongleurs. On assure nos lignes parallèles où il y a toujours une tension vers l'image globale que là, j'ai pas. Là, c'est le moment global, quoi.
Et puis il y a quand même ce truc-là aussi où, depuis qu'on se connaît, j'ai l'impression qu'on s'est vachement nourri l'un et l'autre. C'est-à-dire que j'ai l'impression que rythmiquement, toi, t'es vachement plus en place dans ton corps et que tu m'as appris aussi, le fait que tu m'as appris des formules de jonglage, je me rends compte de ce que ça fait aussi que de jongler dans le corps et tout. Et donc ça fait aussi jouer différemment, quoi.
Ouais. Est-ce que vous faites des blagues en spectacle? Est-ce que c'est possible? Ah oui. Ou alors c'est millimétré?
Donc c'est ce soir à 20h30.
Non, il y a de la place pour ça, ouais.
Ouais, s'il n'y avait pas de place pour ça, ça serait triste.
Alors la plus belle que vous ayez en tête, là, celle qui vous viendrait... Je peux vous reposer la question au fin d'émission, si vous voulez, le temps, et je vous pose une autre question, j'en ai plein.
Je l'aurais oublié, je serais dans le même état. La plus belle blague... Ça vient forcément de Pierre.
Ouais, il y en a une pas mal où je crois qu'on joue à Lille. Et j'ai tout un dispositif, je joue pas que de la batterie. Je fais des boucles, des loops, j'ai un looper et tout ça. Et donc je construis une boucle. Et en fait, une fois qu'elle est construite, normalement je dois jouer par-dessus. Et en fait, je l'efface.
Ah, on est bien.
Voilà. Bon, je me suis mis dans la merde tout seul, ouais. Mais voilà, ça c'était une blague, mais c'est non voulu, mais ça nous a fait quand même tous les deux réagir. Bon, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Et bon, on a trouvé une solution.
J'ai lu dans le petit synopsis que vous parlez de... On parle normalement de compagnie de théâtre, et là vous parlez de collectif. C'est quoi la différence? Pourquoi... on voit toujours, là, on peut regarder derrière, hein, c'est la compagnie de la compagnie, la compagnie, la compagnie, la compagnie. Et vous, c'est collectif. Ah non, tiens, Conjuration, c'est un collectif aussi, scandale, autant pour moi. Mais pourquoi vous avez choisi ce mot plutôt que collectif, que compagnie, pardon?
Eh bien, ça vient d'il y a longtemps, juste parce qu'on était plusieurs. Et
c'est bien pour un collectif.
Voilà. Mais du coup, au moment de chercher... Le nom, on s'est dit, on va s'appeler Collectif pour ce mouvement justement d'être plusieurs auteurs, plusieurs contributeurs et de valoriser un peu cette pluralité-là. Sauf que petit à petit, on a fait chacun des bouts de chemin, soit divergents, soit carrément d'autres choix. Et finalement, on se retrouve depuis presque 15 ans, deux à co-diriger ce qui s'appelle Collectif Petit Travers, mais qui est en fait le nom de la compagnie. C'est comme s'il restait de cette impulsion qui a duré quand même plusieurs années collective, le nom. Mais c'est le nom d'une compagnie, en gros. où on est trois à co-diriger. Et peut-être là-dedans, mais c'est, ça n'a quand même pas grand-chose à voir avec un collectif. On essaye d'avoir une attention au travail de chacun et à ce qui est du sens, à tous les postes nécessaires pour faire vivre une compagnie. Mais c'est pas, je dirais que c'est pas vraiment un collectif.
C'est une réponse en même temps. Hein. Est-ce que vous avez l'impression, je ne sais pas si vous allez voir beaucoup de spectacles, si vous avez le temps, si vous tournez quand même pas mal, même si vous allez voir beaucoup de spectacles, est-ce que vous avez l'impression que votre spectacle bouscule les attentes traditionnelles qu'un public pourrait avoir?
Franchement, j'ai pas l'impression que ça bouscule quoi que ce soit. on n'est pas dans un truc militant, quoi. Enfin, voilà. Mais
en tout cas, je parle sur la forme visuelle que vous offrez à un joueur, à un batteur. Pardon. Je parle de forme. Je parle pas forcément de fond.
Ouais, bah alors, je pense que des duos jongleur-batteur, il y en a. Après, voilà, chacun se l'approprie. Et alors, je sais pas, bousculer. Je trouve que c'est un grand mot. Je pense qu'on essaye de l'aborder de façon, à la fois, à la fois poétique et à la fois. Rustre et à la fois, enfin, je sais pas trop comment quoi répondre à ça, mais c'est je sais pas.
Moi, je pourrais dire, mais comme pour d'autres spectacles d'ailleurs, mais que en tout cas pour nous, c'est super important d'inventer, d'avoir en tout cas l'impression d'inventer et de chercher suffisamment aussi pour savoir quand on propose quelque chose qui n'existait pas forcément avant. Et du coup, il y a quand même cette attention à faire quelque chose qui nous semble propre à... Ben, en fait, comme se fait n'importe quel boulot, quand t'avances petit à petit, t'es dans un coin. Et ce spectacle, c'est notre recoin où on a bien avancé. On a quand même fait pas mal de trucs qu'on savait pas faire avant et qu'on n'avait même pas imaginé avant de travailler. Ouais.
En termes d'inspiration, en batteur, Pierre, t'as des noms à donner.
Robert Wyatt.
Voilà, laconiquement, ça marche très bien en termes de jonglage, toi, Julien.
Ouais, pas mal. Alors, ça commencerait, parce que c'est en même temps affectif, en même temps esthétique, par Laurent Cabrol, qui est un jongleur qui avait monté un cirque qui s'appelait Convoi Exceptionnel dans les années 90, puis après le cirque Trotola, quand il travaillait avec Bonaventure et Titoun, et après Bête de Foire. Voilà, donc il y a lui... Ensuite, il y aurait un Américain qui était vraiment chercheur, Michael Motion, qui était vachement sur la cinétique et la rythmique. Du coup, j'ai beaucoup regardé ça. Il y a toute l'école plutôt qui vient de l'Est, depuis l'école de Moscou jusqu'à celle de Kiev. C'était de quoi ?
C'est vraiment impressionnant aussi.
Ouais, carrément. Et j'ai pu avoir deux enseignants dans mon parcours comme ça qui venaient de là. Et aussi des partenaires. Et du coup, ça, j'aime beaucoup la structuration de l'espace aérien dans cette école-là. Et puis sinon, il y a toute la créativité de jongleurs pas mal français, je crois, de ce que je connais. Non, pas forcément français, mais en tout cas qui sont passés par le CNAC aussi dans les années 90, genre Jörg Müller, Thierry André, Vincent de la Vénère. Bon, en fait, il y en a plein. Hein. Puis il y a tous ceux avec qui je bosse, alors je vais pas les citer.
C'est pareil
tous.
Pour les batteurs, je pense. Qu'on
oui, oui, non, oui, non, mais là, il y en a plein.
Mais ça, c'est tous ceux que je pompe, hein, où je me sers de choses que j'ai senties en les voyant.
Ouais. Allez, on arrive tout de suite à la fin de cette interview. Merci beaucoup, puisque vous allez prendre la scène là, dans un peu plus d'une heure et demie, tranquillement. Donc, ouais. On va vous laisser vous poser. Mais j'aimerais bien savoir quels conseils vous donneriez. Tant à la batterie qu'au jonglage ou au milieu circassien ou au niveau de la musique en général, à des gamins. Alors, on va prendre la batterie d'abord pour dire les parents qui se rebutent un peu en disant ça fait du bruit, c'est chiant, etc. Mais un gamin qui dit j'ai envie de faire de la batterie. Aujourd'hui, il y a plein de solutions. Bon, les petites batteries électroniques, ça fonctionne quand même pas
notamment,
trop mal.
Effectivement, ou des coussins hein, pour commencer.
Enfin, ou moi, des coussins.
Si je parle de mon parcours,
avec
c'est
plaisir.
Mon père, il m'a dit, écoute, je veux bien que tu fasses la batterie. Par contre, je t'en achèterai une quand tu sauras faire le roulement. Et en fait, voilà, j'avais un coussin.
Quand tu sauras faire le roulement.
Oui, oui, j'ai
donc
pas eu de batterie avant.
Tata maman et...
Papa, maman, c'est ça. Une fois que j'ai su faire ça, il a dit, bon, c'est bon, je pense qu'il peut avoir une batterie maintenant. Et puis, ça... c'est mon métier. Et après, sinon, dans le travail, ben, je pense que quand t'es enfant, le prof, il te dit, il faut que tu travailles un petit peu tous les jours. Mais bon, c'est surtout aux parents de dire aux enfants de travailler. Les enfants, ils sont pas construits encore pour se dire, il faut que je travaille tout. À part si c'est une envie très, très forte de la part de l'enfant. Mais ne serait-ce que 5 minutes par jour, c'est largement suffisant pour progresser et pas une heure la veille du cours, quoi. Voilà.
Ça, c'est sûr. Et pour rebondir sur ce que tu dis, j'ai eu la chance d'avoir des cours de batterie aussi quand j'étais ado, etc. Et j'avais pas eu moyen d'avoir une batterie. Et mon prof de batterie m'a regardé, il m'a dit, bah, t'as deux mains ? Ouais. T'as une poitrine ? Ouais. T'as deux jambes ? Ouais. T'as deux pieds ? Ouais. Bah, t'as une batterie.
Donc voilà, effectivement.
Il faut aussi le revoir. Mm. Pour le jonglage, comment ça se passe un peu ? Quel conseil tu donnerais à un gamin qui voudrait s'y lancer en se disant, c'est quand même compliqué, un motricement parlant.
Ouais, comme ça. Bah alors, par rapport à la motricité, il y a juste un truc d'âge, tout bête, mais c'est cool d'essayer à n'importe quel âge. Mais avant 6 ans, c'est super dur de lancer une balle et de la rattraper. C'est vraiment, enfin, ça vient de l'observation, hein. C'est pas une étude, mais j'ai donné pas mal de cours, notamment à cet âge-là. Et du coup, bah, c'est plus de faire des trucs de cible, de jouer à viser avec un ballon dans un panier ou à. Ouais, de tout ce qui est visé.
À mettre des grosses lucarnes.
Ouais, par exemple, à mettre des lucarnes, à faire un truc, n'importe quelle chose physique. Enfin, en tout cas, je pense qu'il faut. Trouver un truc d'équilibre où tu as tout le corps qui est dans le mouvement. Et ça, c'est en premier lieu. Et après, vers 8 ans, tu peux commencer à bosser, quoi. Et ça, c'est faire. Alors, le problème, c'est que en accompagnant, c'est facile de donner des conseils, mais comme ça, à l'oral, je suis un peu coincé.
On a tout notre temps, nous.
Ouais, bah tant mieux. Bah si, je me dis déjà de pas avoir peur que ça tombe, de pouvoir se prendre un petit espace sans avoir la sensation d'embêter. Par exemple, si on est en appartement, bah, c'est peut-être bien d'essayer de lancer des trucs au-dessus de son lit quand on est petit. Parce que du coup, ça ne va pas tomber sur la tête des voisins. Ça ne va pas créer un autre truc qui viendra empêcher ce petit truc s'il est en train de naître, quoi. Y a aussi beaucoup... Parce que ça, c'est un des premiers trucs, quand on jongle à plusieurs balles notamment, d'essayer de pas trop avancer. Et du coup, il y a un truc, c'est assez terrible à dire, mais par exemple, se mettre face au mur et essayer de jongler face au mur et de sentir plus que la frontière, sentir le plan, ça peut être un truc quand on est tout seul pour apprendre et pour avancer. Après, il faut sortir la tête du mur aussi. Et puis, pas avoir peur de tomber, pas avoir les vases importants des parents ou des gens qui sont à côté parce que c'est sûr que ça va tomber. Enfin voilà, faut savoir que ça tombe toujours, même au bout de plein d'années, et pro et tout, ça continue de tomber. Et ça, c'est pas très grave. En revanche, ça apprend un truc, c'est vraiment connecté avec la gravité, et du coup, tout ce qui est lancé, ce qui s'allège, ce qui se reprend, eh ben, c'est connecté avec jongler. Voilà.
Seb, t'as pu voir les répètes cet après-midi ?
Non, j'ai menti sur les réseaux. Ils n'ont pas répété, en fait. Ils sont arrivés super tard. Et tout.
Alors, toi, c'est vrai qu'on est arrivé tard, mais on a répété.
Oui.
Toi-même, tu vas te laisser surprendre aussi par ce spectacle.
Après, j'ai quand même vu des... Comme je suis curieux et que je ne connaissais pas la programmation, j'ai quand même vu des extraits. Et c'est là où j'ai reconnu Pierre. Je fais « Ah, mais je le connais !»
Mais de où ? Raconte-nous tout.
Alors, Pierre, il est venu au Festival d'Olt, on en a parlé tout à l'heure, enfin, on le savait, lui et moi, qu'il était venu au Festival d'Olt, mais donc c'était en 2018, la fameuse année de la neige.
Ouais.
Et il se trouve qu'il jouait avec Pulcinella, et il jouait le premier soir, et qu'ils avaient dit super, on est motivé, par contre, on veut bien rester en famille, ils avaient eu la possibilité de ça. Et il nous a raconté tout à l'heure le réveil en famille avec Pudelec parce qu'il y avait eu 70 cm de neige. Voilà. Donc c'est forcément une édition dont on se rappelle.
Tout le monde s'en rappelle de cette édition, c'était absolument fou. C'est à partir de 20h30, il reste quelques places, n'hésitez pas à venir s'assurer de ses propres murmures. Julien, Pierre, merci beaucoup à tous les deux d'avoir pris ce temps-là avec nous.
Merci Ben.
Merci à vous. Juste avant de monter sur scène dans 1h30. On va faire une petite pause musicale. Tiens, j'ai mis un groupe du Nord que j'adore. Quand tu parlais de Lille tout à l'heure, la scène de Lille, tu te souviens où c'était ?
C'était au Prado.
Ah, c'était au Prado.
Ouais.
Ok.
Prato.
Au Prato. On fait une petite pause musicale avec des copains du Nord. C'est des blaireaux et c'est pom, 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 les frites.
Pom, 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 pom. Je les avais calés par an, dîner dans un grand restaurant. Je savais déjà par le menu quel serait mon menu. Au risque de faire déshonneur à mes augustes géniteurs, au risque qu'ils me déshéritent, je prenais des frites. Aujourd'hui on me demande encore pourquoi j'ai choisi le Nord au lieu de descendre à Paris, aller voir là-bas si j'y suis. Pom, 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 pom. La première fois que j'ai pris conscience qu'il faut pas se fier aux apparences, c'est quand j'ai su que les frites en clair, ben, c'était de la pomme de terre. Depuis, quand je croise une grosse patate qui essaie de se prendre pour un Goliath, je me dis que sous ces airs de Brad Pitt se cache peut-être une frite. Aujourd'hui, on me demande encore pourquoi j'ai choisi le Nord au lieu de rejoindre le tout Paris, là où tout se sait, tout se dit. Oh mon chéri, vous ici. Si je ramène pas mon sac de riz, quand c'est le bordel en Somalie, c'est que les gamins de Mogadiscio rêvent aussi de frites maillot. Plus tard, je ferai le monde entier, tel le baron Parmentier, avec sur le dos une marmite et 33 kilos de frites. Aujourd'hui, on me demande encore pourquoi j'ai choisi le Nord au lieu de crever de faim à Paris à force de bouffer les sushis. L'amour de ma vie, je le dois à une friterie du stade Grimont-Préjoris. Un soir qui faisait moins d'10, il se passait rien sur le terrain. Quand j'ai osé lui prendre la main en lui disant réchauffe-toi vite, tout contre ma, mes frites. Aujourd'hui on me demande encore pourquoi j'ai choisi le Nord au lieu de descendre à Paris, là où les filles sont si jolies. J'arriverai au purgatoire, du cholestérol plein le tiroir. Je demanderai au chef de cuisine ce qu'on mange à la cantine. S'il me répond
la pomme de terre,
oh ben j'irai tout droit en enfer. Au moins je serai sûr qu'elles seront bien cuites, qu'elles seront bien frites. Longtemps, longtemps après ma mort, on se demandera encore pourquoi j'ai choisi de vivre ici plutôt qu'aller au paradis. Longtemps, longtemps après ma mort, on se demandera encore pourquoi j'ai choisi de vivre ici plutôt qu'aller au paradis. Longtemps, longtemps après ma mort, on se demandera encore pourquoi j'ai choisi de vivre ici plutôt qu'aller au paradis. Longtemps, longtemps après ma mort, on se demandera encore pourquoi j'ai choisi de vivre ici plutôt qu'aller au paradis.
Théâtre,
musique,
danse,
culture. Et pour la clôture de la saison 2024-2025,
un plateau radio en direct de la Jeunette Verte
à partir de 18h30.
Et le bar est ouvert.
Et oui, auditeurs, auditrices, vous êtes toujours sur le 107 sur Radio Bartas en direct de la Jeunette Verte. Sébastien est toujours avec nous, directeur artistique de la Jeunette. Ça va, François?
Tout à fait, Gérard.
Ouais, l'année dernière, tu m'avais appelé Ludo, enfin voilà. Oui, mais... Et puis moi, je t'avais appelé Olivier.
Tout à fait.
On est bien. Pour cette deuxième partie de plateau, et c'est un vrai plaisir, comme quoi tout va bien, Alice Brugeron nous a rejoint. Bonjour Alice.
Bonjour.
Ancienne directrice de la Jeunette Verte ici à Florac. Pendant combien de temps? J'ai pas noté.
De 2011 à 2024.
Ça fait un petit bout de chemin quand même. Merci beaucoup d'être avec nous. C'est toi qui a programmé cette saison, voilà, que, et Sébastien a repris le flambeau, et on parlera tout à l'heure de la saison qui suit. Merci beaucoup, on va faire un petit retour sur toi, les façons dont vous avez travaillé, quelles sont les différences entre vous, quelles sont les valeurs que vous portez, je suppose qu'elles sont les mêmes. Et François Rouvérol nous a rejoint. Bonjour François.
Bonjour Gérard.
Tu es... Bien joué. Tu es chargé de la culture à la Comcom Gorges-Cossé. Cévennes, maire de Bar des Cévennes, la Comcom qui gère ce complexe culturel
depuis
2017. Depuis 2017, ça fait un bail aussi. Est-ce que il y a des choses dont tu es fier depuis 2017, justement, en toutes ces années? Ça fait du coup, je suis très mauvais en maths. 3 plus 4, 7. 7 ans.
Oui.
8, alors, parce qu'on est en 25.
8, merci.
Oui, je pense que c'est le territoire qui peut être fier d'avoir un tel outil. Je pense qu'il faut aller avoir un sacré culot. Et 3 visionnaires, donc là je parle de Jacques Gasperin, Christian Huguet et Jean-Marie Toyer, pour imaginer un tel outil sur une commune de 2000 habitants. On est sur un outil qui est, que l'on trouve en général sur des collectivités de 15 à 20 000 habitants. Donc je suis impressionné, je reste impressionné par cela. Voilà, donc moi je sers de mon mieux cet outil, mais là pour moi c'est une fierté d'avoir une Alice Brugeron à nos côtés, Sébastien Kuhn, et c'est, voilà, merci pour tout ce boulot.
Alice, justement, comment tu avais bossé la programmation de cette saison? Comment ça s'était passé? Parce que donc cette saison tu l'avais déjà pensé et réfléchi, 2025-2024, quasiment fin 2023 en fait.
Oui, par exemple, le spectacle de ce soir, je l'ai vu au Festival d'Avignon, donc en juillet 2023, pour l'accueillir en mai 2025. Donc c'est un travail sur du long terme.
Comment tu travaillais, toi, la programmation de tes spectacles?
Donc de préférence, j'aimerais quand même bien voir les spectacles avant de les accueillir. Donc, je
ce
qui n'est
pas
déplace...
le cas de Sébastien, il va voir aucun spectacle.
Donc je me déplaçais sur des festivals, puisque ça permettait de voir plusieurs spectacles en un temps restreint, puisque bon, c'est vrai que depuis la Lozère, il faut vite faire des kilomètres pour aller voir un spectacle. Donc ça m'est arrivé d'aller à Perpignan voir un spectacle de 40 minutes, qui n'était pas bien.
On ne dira pas ce que c'était.
Mais donc voilà, du repérage, et puis évidemment aussi faire confiance à des compagnies. Donc là, notamment cette saison, il y a eu plusieurs créations. Donc la compagnie Marie-Louise Bouillonne qui avait ouvert la saison avec le petit Balkiboum qu'on avait accueilli sur des saisons précédentes. Donc voilà, c'est aussi leur donner la chance de créer, donc avec des moyens techniques, donc du temps de travail sur le plateau, de la coproduction, un apport en coproduction, et ensuite de la diffusion, une manière d'être vu pour que le spectacle puisse vivre par la suite. Même si là encore, en Lozère, on a du mal à faire venir les programmateurs d'ailleurs. Donc c'est... Et puis, il y a eu aussi notamment le projet La Chame qui a été accueilli au Bondon. Donc là, c'est à la fois donc, un travail de territoire et puis qui nous a permis d'aller sur une commune sur laquelle on n'était pas encore allé depuis que ça dépend de la communauté de communes.
Les Bondons, alors, pour le coup, oui. c'est sur les Bondons que ça s'est passé. Seb, toi, tu connaissais pas la programmation, je suppose, de la Genève, puisque tu es arrivé en septembre-octobre, je pense.
Je suis arrivé 1er octobre,
oui. 1er octobre. Est-ce que tu as été surpris par la programmation cette année alors, oh la question. Est-ce que tu as aimé la programmation de cette année?
Je n'ai pas été surpris, oui, j'ai aimé, même si ma programmation sera forcément un peu différente. Mais c'est des choix personnels qu'on fait en pensant à un chemin qu'on propose. Oui, évidemment, moi je me suis régalé. C'est la première fois que ça m'arrive d'arriver sur une programmation que je n'ai pas faite, et c'est hyper confortable.
Alice, est-ce que ça te manque un peu tout ce milieu du spectacle?
Oui, on va pas se mentir, c'est quand même, de très bons côtés, la rencontre avec les artistes, et puis bon, travailler avec l'équipe, même je pense qu'on aurait pu faire une co-direction avec Sébastien, ça aurait été sympa aussi. Après, je suis venue voir la plupart des spectacles, et c'est bien aussi d'être une simple spectatrice.
Et en termes, justement, puisqu'on va parler avec toi, François, tout à l'heure de ce complexe, mais un spectacle que tu as vu à Avignon, là, on parle du spectacle de ce soir, est-ce que c'est différent de le voir à Avignon et de le voir à la Genette? Qu'est-ce qui change, qu'est-ce qui diffère?
Alors, bah, c'est vrai que je profitais davantage des spectacles quand j'allais les voir en repérage.
Plutôt que quand ils étaient joués.
Puisque, ouais. Voilà, c'est sûr qu'une fois, quand on est dans l'accueil, bah, déjà, c'est vrai qu'on est aussi une petite équipe très polyvalente. Donc, on est à la fois à la billetterie, ensuite le mot d'accueil, ensuite on va ranger la billetterie. Enfin, voilà, on n'est pas vraiment dans une position de spectateur qui... Et puis, on est aussi dans la gestion du public, dans l'appréhension, bah, il faut que tout se passe bien, etc. Donc, c'est vrai que c'est un peu l'autre pendant des métiers passion. Ben en fait, à la fois, c'est ce qu'on aime, mais on n'en profite pas. On en fait profiter les autres.
Seb, je vous connais tous les deux sur divers aspects, puisque tu as été directeur aussi artistique du festival Dolt pendant quelques années. C'est quoi ? On a eu ta part sur le fait d'être directeur, la part d'ombre, entre guillemets, de ce qu'on voit pas, nous, en tant que public. C'est quoi être directeur artistique de la Jeunette ? Qu'est-ce que tu as vu, toi, cette année ? Sachant que évidemment on met la part de programmation un peu de côté, puisqu'on en parlera tout à l'heure, comment tu as travaillé ta saison prochaine.
Question piège. Je sais pas. Non mais en fait, par exemple, en fait, ça faisait 2 ans que je programmais plus, donc je suis arrivé. Je connaissais la Jeunette quand même pour y être venu plusieurs fois. Je suis arrivé avec la liste de mes envies. Qu'est-ce que j'aurais envie de programmer ? Et après, tu prends cette liste. Et tu regardes la faisabilité. Enfin, une programmation, c'est un peu comme un menu sur une semaine à la cantine scolaire. Si tu fais 5 fois des pâtes, ça marche pas. Ça va plaire aux enfants, mais ça marche pas. Voilà. Donc il y a l'histoire de l'équilibre, l'histoire du timing, de comment tu programmes, à quelle période, de pas enchaîner 4 week-ends d'affilée parce que sinon les équipes elle tire la bourre et puis le public aussi. Enfin voilà, on peut pas être tout le temps là. On est sur une programmation entre 15 et 20 spectacles par an en mode tout public. Et du coup, ouais, il y a la diversité des esthétiques, les partenariats avec Scène Croisée qui sont assez importants ici, que j'avais pas forcément autant anticipé avant d'arriver. C'est-à-dire que c'est à peu près un tiers des spectacles, même un bon tiers des spectacles. Voilà, donc du coup c'est aussi là un endroit où il faut co-programmer. Donc du coup c'est intéressant, c'est une contrainte, mais voilà, enfin il y a c'est tout ça en fait, c'est blindé de contraintes avec l'histoire d'aller hors les murs aussi. Mais quand je dis contrainte, c'est pas un mot négatif, vraiment pas. C'est plutôt, faut l'entendre comme un cadre. Et voilà, c'est dans ce cadre comment je mixe mes envies, ce que j'ai envie de proposer. Et comment je joue avec ce cadre pour qu'il corresponde à ce que j'ai envie de proposer.
François, comment à la Com-Com, parce que je suppose que tu n'as pas été le seul à décider, mais ça a dû être une collégiale aussi, comment vous avez géré le recrutement de Sébastien ? Comment ça s'est passé en fait ? Parce que 2011, hein, tu as dit que tu es arrivé, ça fait 15 ans quasiment, voilà, il fallait quand même quelqu'un d'assez costaud. Comment vous avez travaillé, réfléchi et pensé le recrutement de Sébastien ?
Oui, tout à fait. Les profils qu'on recherche, c'est des personnes de culture, mais avec beaucoup de curiosité, d'imagination. Et donc ça s'est très bien passé, parce qu'Alice déjà nous a beaucoup aidés. Donc merci pour cette très belle transition. Et puis donc le jury, il était constitué déjà du président Henri Coudert. Et voilà, puis de toutes les personnes qui gravitent autour de la Jeunette Verte. Donc ça s'est très bien passé.
Alors justement, quelle est la place de la culture, plus spécifiquement de la Jeunette Verte en termes de budget, mais aussi en termes de priorité pour la communauté de communes Gorges-Côte-Cévennes ?
Alors on va être clair.
D'accord.
La prochaine équipe qui viendra, le premier projet, c'est la Jeunette Verte. C'est clair, il n'y en aura pas d'autres. Voilà, donc c'est celui-ci. Donc celui-ci ne sera pas achevé, il n'y aura pas d'autres projets. Et c'est pour Florac. Pour Florac et toutes les communes, puisque maintenant, la saison, il y a quelque chose qui est bien acquis depuis le transfert de compétences en 2017, c'est la saison hors les murs. Donc ça, c'est fondamental. C'est toute la difficulté, le pari d'amener la culture au plus près des habitants. Quant à la place de la culture sur la communauté de communes, là aussi je vais être aussi clair, il y a eu quelques jours une journée porte ouverte à l'immeuble Le Rochefort, et je pense qu'il n'y a pas une personne du public en entrant dans l'hôtel Rochefort, qui n'a pas été surpris par la densité des missions dans chaque service de cette communauté de communes. Et au sein de chaque service, du travail, de la densité de travail, prenez compte, prenez les postes de travail, les cadres d'emploi de chaque agent de la communauté de communes, vous serez sidéré du travail à effectuer, de la densité des missions. Ici, on ne gaspille pas un euro d'argent public sur cette communauté de communes. Et la place de la Jeunette Verte dans tout cela, elle est fondamentale, parce que si dans ce territoire on veut accueillir de nouvelles familles, si on veut accueillir des habitants, avec là aussi de l'imagination, du travail, des projets, des familles, des enfants, eh bien écoutez, s'il n'y a pas de culture, vous pouvez regarder partout en France, il n'y aura pas la commune ne progressera pas. Donc accueillir des habitants, c'est mettre en tête la culture.
Ouais, alors on va pas se concher non plus que la... Enfin, c'est un peu la crise partout pour la culture, mais on voit des départements lâcher totalement certaines structures à sceaux. Quel est justement, est-ce qu'il y aura une augmentation du budget pour la culture de la Comcom, ou alors est-ce que ça va rester le même, ou est-ce qu'il va diminuer? Est-ce qu'il y a des chiffres pour l'année 25-26 ou 26-27, parce que je suppose que vous êtes déjà à une plus de... Quoi.
Oui, alors après, il y a des élections en mars prochain.
C'est vrai.
Donc, moi, ce que je prétends, il y a deux choses. Il y a le fonctionnement de l'investissement. Concernant le fonctionnement, je pense qu'il y aura une stabilité. Et on fait tout, grâce à l'imagination, d'abord d'Alice, et puis aussi le travail que mène Sébastien, pour trouver des partenaires, pour surtout ne pas descendre. Voilà, s'il y a peut-être quelques budgets qui sont cornés, pas celui de la culture. Enfin, l'investissement, ça se compte en plusieurs millions d'euros. Ça, c'est prioritaire. Ce sera le prochain projet.
Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Plusieurs millions, non, pas de chiffres, encore.
En ce qui concerne le coût de réhabilitation, non, en plusieurs millions d'euros, 2 millions d'euros, facilement. Peut-être un peu plus, on verra bien. Les études sont en cours.
Okay. Parlons justement des locaux de la Jeunette Verte. Comment ça se passe à l'intérieur, Sébastien? Est-ce que tu peux nous en dire un mot? Est-ce que ça va? Est-ce qu'il y a des fuites? Est-ce que...
Aujourd'hui,
comment ça se passe à l'intérieur?
Aujourd'hui, ça va, il ne pleut pas. Non, les locaux, ils ont 30 ans. Ça commence à être un petit peu vétuste, mais on le sait tous. Effectivement, pendant un épisode Sevenol, il pleut dans le studio de danse, il pleut un peu sur la passerelle de réglage de projecteurs, pas que un peu. Enfin voilà, mais on est tous conscients de ça. Les travaux de réhabilitation, ils sont pour ça, pour l'étanchéité du bâtiment, aussi pour l'accessibilité, parce qu'aujourd'hui on ne peut pas accueillir une personne en fauteuil dans la salle de spectacle, ce qui pose un problème éthique tout de même. Voilà, et il y a plein d'autres travaux. Enfin le J'ai vu les différentes études, c'est ça va dans le bon sens, effectivement. C'est un bâtiment qui a 30 ans, qu'il faut refaire de manière conséquente.
Aujourd'hui, au regard des enjeux environnementaux, on ne peut plus accepter qu'un bâtiment consomme de cette façon-là. Donc déjà, la priorité sur ce bâtiment, en le respectant tel qu'il est, c'est l'énergie. Donc un gros travail là-dessus. Et donc ça concerne toute la structure, tout le bâtiment.
À titre personnel, quelle image vous avez du spectacle vivant? Qu'est-ce que doit être la culture pour toi, François? Mais à titre personnel, vraiment, sortez de votre casquette d'élu.
Oui. Pour moi, quelque chose d'accessible qui ne doit pas faire peur. Voilà, donc il y a un travail, c'est vraiment pour tout le monde. Et c'est un travail délicat pour... ça l'était pour Alice, ça l'était pour Sébastien, et on n'a pas de recette toute faite, mais c'est passionnant de travailler sur un territoire comme cela.
Est-ce qu'il y a des mesures qui vont être prises, entre guillemets, quand je dis des mesures, c'est un gros mot, mais par rapport au spectacle jeune public, puisque la Jeunette accueille quasiment tout le temps les jeunes publics, mais aussi les publics handicapés, ou est-ce qu'il y a des choses qui vont être faites par la communauté de communes par rapport à ça?
Déjà, j'avoue, je ne suis pas très à l'aise quand on parle d'accueil d'handicapés, parce que là, franchement, l'outil communautaire, enfin la Jeunette Verte, n'est pas vraiment tout à fait conforme. Et concernant aussi toutes les autres communes, parce qu'on va jusqu'à Mérues, on va jusqu'à La Parade, le Cosméjean, eh bien, c'est un vrai défi chaque fois pour toutes les équipes. Donc je pense que dans ces investissements que j'ai évoqués tout à l'heure, il y a tout le matériel qui doit être acquis pour que les équipes techniques puissent effectivement monter des spectacles et sous la condition d'accueillir tous les publics. Donc on a un petit défi là-dessus. Et puis pour les jeunes, bah, je pense qu'il y a déjà un bon travail qui est fait depuis longues années. On accueille toutes les écoles, peut-être pas encore assez, mais enfin c'est ouvert à toutes les écoles. Hein. On est sur quelques milliers d'enfants, écoles, collégiens. On n'est pas si mal que ça. Surtout ne pas reculer là-dessus.
Oui, non. tu me montes des doigts. Pardon, c'est pas radiophonique.
Non,
mais il y a dès qu'on peut proposer des spectacles en direction des publics scolaires, on le fait. Voilà, on a un petit regret sur le collège cette année, enfin depuis quelques années, avec qui c'est pas facile. Le gel du pass culture n'a pas aidé cette année.
Qui le dis-tu ? Voilà. Aussi en radio associative, ça nous a aussi freiné sur pas mal de projets.
Voilà, du coup, j'ai écouté d'ailleurs cette émission. et du coup, oui, on espère que tout le monde... Enfin, voilà, c'est effectivement une chance. On peut dire que sur tous les spectacles scolaires, donc les enfants, enfin les établissements scolaires payent une petite participation pour les billets, enfin les billets d'entrée, mais on paye le transport. Voilà, qui est pas du tout une petite somme quand on sait ce que ça coûte de convoquer un bus pour venir durer la parade, par exemple à Florac. Voilà.
Je vous pose la question à tous les trois. La place de la Jeunette Verte est centrale en Sud-Lozère, en fait, au niveau culturel. C'est le seul complexe. Il y a le Piboulio, peut-être, à Sainte-Croix-Vallée-Française, mais qui n'a pas la même valeur. Comment vous représentez la place de la Jeunette Verte aujourd'hui à Florac et en Sud-Lozère ? On a le temps, on n'est pas pressé.
Alors déjà, c'est l'outil le plus performant, des scènes croisées jusqu'au cratère à Alès. Voilà, et donc sur un bassin de vie de 20-30 000 habitants, on n'a rien d'autre. Donc déjà, cet outil en tant que bâtiment, il est fondamental. Donc on va... Après, le défi, je l'ai dit, c'est d'aller à l'encontre du public. Et notre communauté de communes est la plus importante en superficie. C'est pas facile. C'est pas facile, mais on le fait pas mal. Mais c'est clair que là-dessus, dès 2017, j'ai poussé. J'ai poussé parce qu'il fallait changer quelques habitudes et ça s'est très bien fait. Mais il faut continuer, encore amplifier. On n'a pas le choix.
Seb.
Eh ben oui, non, mais tout à l'heure, quand je parlais par exemple de la part des partenariats avec Scène Croisée dans l'année, quand je disais c'est un tiers, mais effectivement, c'est aussi parce que Scène Croisée n'ayant pas de lieu, c'est un lieu où on peut accueillir du public en nombre. Des formes aussi, c'est pas que le public, des formes au plateau qui sont. Enfin voilà, on a un beau plateau, on a un grand plateau, on a un équipement pro, ultra confortable. Voilà, donc du coup, effectivement, c'est le lieu du sud de Lozère.
Et puis d'autres structures qui peuvent en bénéficier, Alice ?
Oui, bah juste ajouter que c'est aussi un lieu de pratique amateur. Il y a quand même une antenne de l'école de musique départementale, l'assaut Ballet Brosse qu'on ne nomme plus. donc c'est aussi le lieu où les enfants auront fait leurs premiers pas sur la scène. Voilà, ça fait partie, je pense, vraiment du quotidien des Floracois et bien autour.
Est-ce qu'il y a des dispositifs, là, Seb ou François, des dispositifs de concertation, des appels à projets qui seraient possibles à imaginer pour que les habitants s'approprient aussi la programmation de la Jeunette ou pas ? Est-ce qu'on pourrait l'imaginer ?
Oui, après, enfin, je laisserai aussi Sébastien dire ce qu'il en pense. On est dévoré par ces appels à projets, par ces appels à manifestations d'intérêt. Donc, on passe notre vie aussi à monter ces projets. Donc, c'est énergivore. Ouvrons, toutes les portes sont ouvertes. Après, les journées durent 24 heures. Donc, voilà.
C'est sûr. Une journée de travail dure 7 heures à peu près. Et alors je dirais oui et non, c'est-à-dire que je pense que programmer une saison, c'est un métier, vraiment. Je pense qu'Alice est d'accord avec moi. Et que bien sûr, ça ne peut pas plaire à tout le monde, et ce n'est pas grave. À partir du moment où on n'est pas complètement seul dans notre tour d'ivoire, évidemment, l'idée, c'est en étant présent, c'est de rencontrer des gens, d'entendre des envies, d'entendre des critiques, de penser à comment on touche différentes personnes. Il y a l'importance de comment on travaille avec des structures autour, c'est-à-dire des assos. Enfin voilà, ouais, du sens qu'on met, de comment on essaie de faire en sorte que la proposition artistique qu'on fait, elle puisse le mieux possible rencontrer des publics différents. Voilà, par exemple, je sais pas, je vais citer un spectacle qui s'est passé cette année pour lequel, pour moi, c'était un grand succès dans l'opération de médiation. C'était Icar. Donc voilà, il y avait Icar, ce spectacle jeune public, mais pas que, voilà, qui était dans le cadre d'une mise en avant de la Fédération des Lucioles pour la création jeune public. On a travaillé à la fois avec le GEM, donc qui n'est pas du tout jeune public. On a travaillé avec le Foyer Rural. Et on a travaillé aussi avec, j'ai perdu, enfin voilà, on a travaillé avec trois structures en tout dedans. Et ce qui faisait qu'il y avait, qu'en fait, à un moment donné, il y avait une très grosse énergie, une très grosse envie autour de ce spectacle, qui était un dimanche soir à 17h. On avait plus de 200 personnes et c'était bien. Et le but pour nous, c'est pas de remplir pour remplir, c'est juste de dire, bah, tiens, on a travaillé. On a creusé le lien et on a été chercher des gens qui ne seraient pas forcément venus et qui ont trouvé un intérêt. Voilà.
Icar, merveilleux spectacle. Je précise aussi qu'on est secoué aussi, de temps en temps, avec au sein de la commission culture. Donc là, ce sont des personnes passionnées, le plus souvent, qui viennent d'Hispaniac, de Florac, d'un peu partout. Voilà. Après, cette idée après de créer peut-être des collectifs ou d'habitants peut-être pour intervenir, pas seulement d'ailleurs pour la culture, mais aussi, pourquoi pas, au sein de la communauté de communes. Alors, il y a des mouvements de fond qui se mettent en place à réfléchir pour créer ces collectifs et peut-être mettre plus à plat le fonctionnement de nos collectivités en général. Il y a des choses qui bougent.
Et puis, on verra ce qui va se passer aussi en 2026. Alice, merci beaucoup.
Merci à vous.
À très très bientôt. Et puis, je suppose que l'année prochaine, tu ne vas pas en manquer une miette de la Jeunette Verte.
Ah non, j'ai hâte de découvrir la prochaine programmation.
On va en parler dans un tout petit instant. François Rouveral, merci.
Merci beaucoup.
Vous êtes tué, oui, on a dit qu'on se tutoyait, mais le vouvoiement, c'est un petit peu toujours la même chose à la radio. Chargé de la culture à la communauté de communes d'Orge-Cost-Cévennes et maire de Bar-des-Cévennes. Seb, dans un tout petit instant, on finit ce plateau pour parler de la saison prochaine. Tu nous fais quelques petites annonces. Voilà. On écoute d'abord Danakil, Marley, un peu de reggae, ça fait pas de mal.
Famille modeste, l'injustice et la guerre sont des choses que je déteste. J'ai grandi dans les champs à répéter les mêmes gestes pour gagner un peu d'argent, car la misère m'est indigeste. Je n'ai pas connu mon père, il était capitaine, il venait d'Angleterre, cette terre n'est pas la mienne. Mais ma passion n'est pas là, bientôt je pars de chez moi. J'embrasse tendrement ma mère qui a tant fait pour moi. Où je vais je ne sais pas, mais Dieu guide mes pas et je me sens quelque part être quelqu'un à part. Tellement de sentiments se bousculent dans mon cœur, qui palpite et grandit en écrasant la peur. La vie me fait mal, je crains pour mes frères et sœurs. Je voudrais le bien mais le mal fait son beurre. Moi je veux jouer de la voix et devenir chanteur, générer de la joie avant que l'espoir ne meure. J'ai 16 ans, je bosse, j'avance avec bravoure, avec des potes, je sors mon premier 45 tours. Que la force soit avec moi, le chemin sans détour, le peuple m'entendra, en tout cas je ferai tout pour. J'ai grandi dans mon ghetto modeste, mon prénom c'est Nesta et personne ne me teste. Je crois dans la musique, à l'importance des textes. Je m'attaque dans mes chansons au travers que je détecte. Je n'aime pas la disco, je la fuis comme la peste. Mon son c'est le roots que je balance même à la messe. Quelques galères, mais les morceaux s'enchaînent. Dans mon pays, les producteurs véreux se déchaînent. C'est les miettes que je ramasse, même si ça me fait de la peine. Je gagne pas des masses, mais qu'est-ce que je donne de moi-même? Sinon, j'adore le football, depuis petit, je suis football. J'aime frapper dans la boule pleine balle et je la traîne où que j'aille. La weed me fait du bien, et même elle me soulage. Elle m'aide à oublier que des chiens nous mettent en cage. Me voilà tel que je suis, tel que je compte percer. Les échecs, je les essuie, la légende est amorcée. chanson résonne. Le monde connaît mon nom et les chiens montent à la bonne. Mais foutez-moi la paix, je travaille à l'album. Je suis un homme puissant, maintenant appelez-moi Bob. Je suis une star, mais je reste modeste. Je ne suis pas du style à retourner ma veste. Enfant du peuple, je suis né, je le reste. Je n'ai jamais subi l'influence des terres de l'Ouest. J'aime les femmes qui m'accompagnent, inspirent mon écriture. J'accorde la douceur des mots avec la force des écritures. Je porte de gros chapeaux, j'aime la weed quand elle est pure. Je n'abuse pas de l'argent, juste quelques belles voitures. En concert, c'est incroyable, comme les foules se déchaînent. Des dates inoubliables et des tournées qui s'enchaînent. Partout où je passe, se créent des marées humaines. Mon message n'est pas secret, chaque jour je le promène. J'ai enfin trouvé mon père, il vit en Éthiopie. J'ai aussi trouvé ma terre, celle qui a vu naître la vie. Les yeux posés sur le monde, je dis ma philosophie. Plus jamais personne au monde l'ayant lu ne l'oublie malheureusement. Le contexte politique est tendu à l'approche des élections. Les jeunes se tirent dessus dans la rue. Je sais que tous mes frères s'entretuent. Ça m'écœure, tout se sent pour deux hommes corrompus. Et vient mon tour lorsque ces fous pénètrent dans ma cour en plein jour et tapent sur leurs cachettes comme des sourds. Marley assassiné par deux dingues et un fêlé. Non, ça c'est du ciné, remets ton flingue sous scellé. Le concert sera maintenu et le combat continue, puisque la balle n'a pas ôté l'espoir de ma vue. J'ai encore des choses à dire, encore des choses à faire. C'est pas l'heure de mourir, c'est pas non plus la manière. Il y a des gens qui comptent sur moi et moi je compte sur les gens, sur les gens intelligents, ce sont les plus dérangeants. C'est avec eux, soudés et solides comme la soudure, que jusqu'au dernier soupir, on contrera les coups durs. Un jour je partirai, mais mon travail restera. Natural Mystic, mec, y'a des choses qu'on n'explique pas. Pourquoi moi, j'ai senti le besoin de faire ça. Pourquoi cette attraction, pourquoi j'ai pesé ce poids. Mais voilà, un matin, le destin fait le malin. Me prend par surprise et m'injecte son venin. Mal au pied, je suis crevé, mais les tourneurs veulent tourner. On y va, si je dois mourir, je veux chanter. Déjà 36 ans que j'ai débarqué sur cette terre. 1981 marque la fin de mon ère. Aujourd'hui j'aurai 60 ans et des poussières. Mais bon, j'ai réussi et j'en suis fier.
Théâtre,
musique, danse, culture. Et pour la clôture de la saison 2024-2025,
un plateau radio en direct de la Jeunette Verte
à partir de 18h30.
Et le bar est ouvert.
Et oui, dernière partie de plateau sur Radio Bartas, 107 FM en direct de la Jeunette Verte. On est juste devant le parvis, le bar est ouvert, effectivement. Je remercie du fond du cœur Léo qui est à la technique pour la technique. Je remercie Jules qui nous file un coup de main en tant que bénévole et Véro qui est au bar. Donc n'hésitez pas à venir vous servir tranquille. Je remercie aussi du fond du cœur Vincent qui a vraiment filé la patte pour nous installer tout pour qu'on soit vraiment au meilleur. Des conditions pour l'installation de ce plateau. Bastien, Géraldine, Cléo pour l'équipe de la Jeunette Verte que j'embrasse du fond du cœur et Ziggy qui vient filer un coup de main. Seb est avec nous pour le moment que vous attendez toutes et tous sur cette antenne. Un petit mot sur la programmation de l'année à venir 2025-2026. J'arrive pas à lui faire qu'on arrive déjà en 2026. Seb, déjà, quelles sont, juste avant qu'on rentre dans les détails de la prog, quelles sont les valeurs que tu as essayé de porter, de défendre dans ta programmation sur l'année prochaine? Pardon pour la question.
Non, c'est évident que c'est au cœur. Alors, mes valeurs, elles sont profondément humanistes. Je me suis posé la question du sens. Enfin, je me pose la question du sens et du lien à faire à chaque fois. Alors, je ne parle pas de chaque valeur de chaque spectacle, mais j'aime bien essayer de trouver. Comment résonne un spectacle, voilà. Et du coup, c'est ça qui m'a animé dans la programmation de l'année. Alors, il se trouve qu'on va ouvrir et qu'on va clôturer avec des spectacles faits par des hommes qui parlent de féminisme. qui déconstruisent le masculinisme, et ça j'en suis absolument ravi, avec un spectacle plus gentil au début et un spectacle qui envoie bien du steak à la fin. Donc qui est on clôturera la saison de la Jeunette Verte le 23 mai l'année prochaine avec un spectacle qui s'appelle Danser dans mon petit salon sans me poser de questions, par le détachement international du Muerto Coco. Vous imaginez la place que ça prend sur une affiche. voilà, c'est un spectacle qui interroge la virilité et c'est un spectacle absolument génial, vraiment tout public, mais qui déconstruit vraiment très 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 bien le masculinisme, quoi. Et ça, c'est effectivement quelque chose qui m'anime, évidemment.
Et juste avant que tu continues, tu as été directeur artistique du Festival Dolt pendant quelques années. Donc, tu viens un tout petit peu... il y a des concerts à Holt, hein, c'est le week-end prochain, évidemment. Mais tu viens aussi du spectacle de rue. Est-ce que tu amènes cette patte-là aussi ici à la Jeunette?
Oui, bien sûr. Moi, je ne m'occupais pas de la programmation musicale du Festival Dolt.
Programmation spectacle et rue.
J'accompagnais Numa qui bossait très, très bien dessus. Mais moi, j'étais sur la partie rue et notamment sur les accueils en saison. Donc oui, il y aura des spectacles de gens qui viennent de la rue en salle. Je peux le dire maintenant parce que Typhus Bronx est venu en résidence là pendant 3 jours. Il ne sera pas là chez nous, dans la Jeunette Verte, dans la saison prochaine. Ce sera la saison d'après. Par contre, il sera à la soupe. Voilà.
Et bim. Donc, le clown Typhus, hein, qui est quand même un spectacle extraordinaire, qui fait des choses extraordinaires.
Qui est un clown fabuleux et qui a 3 spectacles superbes et qui est venu bosser la petite histoire qui fait flipper ta race tellement qu'elle fait peur ici. Et voilà, on travaille ensemble pour 26-27, parce qu'en fait on construit une saison, mais en même temps on construit celle d'après, parce qu'il y a quand je disais la liste de mes envies tout à l'heure, c'est il y a ce qui passe pas, mais parce qu'on peut pas faire tout le temps la même chose, et du coup qu'est-ce qu'on cale pour la saison d'après, voilà, donc là c'est sûr qu'il sera là en 26-27.
Annoncé pour la saison prochaine, allez, quelques noms, parce qu'on va pas pouvoir tout.
Alors il y a, des noms qui parlent aux gens, j'en sais rien. En fait, ce qui est important pour moi, il y aura une ouverture, une fermeture hors les murs. Donc une ouverture le 27 septembre avec un Watt qui va faire un karaoké dansé, enfin une déambulation karaoké pop dansé, qui va être un super moment à Vébron. Un moment complètement absurde et participatif, voilà, qui va être chouette, qui finit par un vrai karaoké, une vraie fête de village sur la place du village. Voilà, ça me plaît, ça m'intéresse. Un Watt, c'est une compagnie avec qui j'ai énormément travaillé du côté de Rude Boy et c'est des amis cœur-cœur. Voilà. Et ensuite, on va faire une fête d'ouverture ici aussi à la Jeunette. C'est-à-dire qu'il y aura une ouverture, une clôture hors les murs et une ouverture, une clôture dans les murs de la Jeunette. Et ça m'intéresse de faire comme ce soir, c'est-à-dire d'avoir un endroit vivant, là, le parvis. Voilà. J'ai eu la chance de faire une saison où j'ai vu ce qui se passait, et du coup, sans être investi, moi, sans avoir un enjeu de réussir ou pas, c'est-à-dire que c'est un peu égoïste ce que je vais dire, mais c'était pas ma programmation, donc du coup, c'est un côté hyper confort comme ça, c'est-à-dire que presque si ça marche pas, c'est presque pas ma faute, et il se trouve que ça marche, et j'en suis ravi. Mais voilà, mais du coup, pendant un an, tu as le temps de dire qu'est-ce que tu aimerais améliorer, enfin ouvrir plus. Enfin voilà. Et donc, du coup, il y a ouvrir plus. J'ai vu le parvis ouvert pendant Vue du Québec, avec des tables, des chaises, enfin des gens où ça vivait dehors. Et je me suis dit que ça, c'était vraiment important. Et voilà, donc ce soir, on l'ouvre tranquillement. Le 10 octobre, on fera une fête d'ouverture ici avec un vrai spectacle dehors. Avec la compagnie du coin, donc une grosse fanfare qui vient de Tours, qui fait un spectacle qui s'appelle La Cérémoniale, qui dure 1h25, qui sera là. C'est bien, c'est une cérémonie, en plus, ça sera la cérémonie d'ouverture du Festival de Cannes. Voilà, et après, un autre spectacle à l'intérieur qui s'appelle Sensible par les hommes sensibles, qui du coup traite des injonctions faites aux hommes, et voilà, et du coup, de comment on peut ne pas répondre à ces injonctions. Voilà, donc encore une fois, de virilité ou pas, du coup. Qui m'intéresse.
Et puis, c'est combien? Alors, je m'étais complètement planté la dernière fois. J'avais dit une dizaine de spectacles. Alors, on sera à combien l'année prochaine?
On sera à 18 représentations de tout public. Et puis, on rajoute 9 scolaires. Voilà, plus des petites ouvertures ailleurs, c'est-à-dire il y a un spectacle en janvier qu'on accueille où on va faire une soirée DJ la veille à la pompe avec le comédien qui est un très bon DJ vinyle qui va aller à la pompe. Pour la joie errante, il y aura une soirée avant à Supagro. Enfin voilà, du lien, un maximum de liens. On a beaucoup d'ateliers participatifs, beaucoup de rendez-vous en plus que les rendez-vous de programmation.
Et puis, un gros nom quand même, en mars, on va quand même le dire ou on le dit pas ?
Ouais, on peut le dire. Enfin, c'est pas que le gros nom, en fait, c'est juste...
Alors, la moi, personnalité. Coup,
non, mais en fait, moi, j'ai connu la jeunette d'abord par des concerts. Et du coup, en arrivant, j'avais envie de faire des concerts. Alors, j'avais envie d'en faire deux dans la saison. Et il se trouve que, y a pas, on ne peut pas faire beaucoup, beaucoup. Du coup, il y aura un concert. Il y aura Didier Super avec son groupe Discount en concert. Du coup, en mode concert debout. C'est bien. Par exemple, Vincent, qui est là depuis assez longtemps, n'a pas vu encore la jeunette en mode concert debout. Voilà, je suis ravi de le tester. Voilà, il y aura Grèce Brune en première partie, un groupe de Lozère qu'on adore. Voilà.
Ça, c'est, c'est vrai que... ouais. Et puis l'idée, ce serait quoi ? 2-3 concerts l'année suivante ou rester à 1, 2
Je sais pas encore. Ouais, je pense que dans la formule, c'est-à-dire qu'on est, on est sur 7 partenariats cette année avec les Scènes Croisées, donc ça veut dire un tiers. Dans la forme, si on veut équilibrer, oui, ça peut être 2 concerts musique actuelle dans l'année. Voilà, là Didier Super, c'était pour moi ce qui m'intéressait, c'était.
T'as failli dire
ça. Ouais, ça m'inquiète, c'est ça qui est drôle. J'étais pas du tout parti là-dessus au départ, et puis en fait, je me suis dit, quand même, c'est bien d'éduquer les gens au deuxième degré, et là, c'est pas le deuxième, c'est le 18e. Voilà, parce que pour moi, ils posent sur la table les mêmes questions que les histoires de... Enfin voilà, c'est un spectacle, il va être atroce avec... Il a 3 choristes femmes, il va être atroce avec elles, enfin voilà, donc du coup, au 4e degré, c'est effectivement, ça pose les questions de comment on se comporte dans la vie, quoi.
C'est son spectacle Discount, alors.
Ouais, c'est son concert Discount, c'est un gros concert qui bouge énormément.
Un ou deux autres spectacles sur lesquels on peut faire un focus ?
Eh ben, il y en a plein.
Ouais, les 18,
va y avoir du mentalisme avec une super compagnie belge qui s'appelle Rodboom, Évidence Inconnue, en décembre. Il y a une part forte pour la création, c'est-à-dire il y a 4 spectacles qui vont sortir à la Jeunette Verte dans leurs 2 ou 3 premières représentations, donc que je n'ai pas vu. Voilà, donc avec La Joie Errante, La Grande Garabagne déployée la nuit qu'on va faire sur le Cosméjean. Aux Lisières, sur la commune de Montbrun. Voilà. Vivarium de compagnie Zapping Sauvage qu'on va faire à Bar des Cévennes. Et la dernière création, oui, Rama, compagnie Rama avec 3 poids, 3 mesures, un spectacle de danse. Voilà, donc 4 créations, bah, c'est pareil, c'est un fort pari aussi. On accueillera 3 résidences de création dans l'année avec à chaque fois de la coproduction et du temps de travail au plateau. Voilà, dans des esthétiques différentes. Après, je ne change pas plus que ça les esthétiques. Il y aura de la danse, il y aura du théâtre, il y aura de la musique, il y aura du cirque. Enfin, voilà. On va aller à la salle des fêtes de Florac pour un spectacle aussi.
Ah, ça, c'est la salle des fêtes.
Ouais, ça passait pas techniquement à la Jeunette Verte.
Eh bien.
Voilà, donc le 7 février, la Mondiale Générale avec un spectacle génial qui s'appelle Réfugions-nous, qui est. Ouais, qui est une histoire de créer un refuge de manière circassienne. Enfin voilà, sur la notion de, ils travaillent la notion de l'équilibre tout le temps. Donc ils sont en équilibre sur des bastins et de l'instabilité. Enfin voilà, et du coup des relations humaines liées à l'instabilité. Et c'est hyper touchant. C'est voilà. Et du coup ça passait pas à la Jeunette. Enfin ça passait à la Jeunette, mais on pouvait mettre 40 personnes parce que ça pouvait jouer que au plateau. Et du coup, on a dit, on va aller ailleurs. Et on a cherché, on a trouvé à la salle des fêtes, au final, où ça fonctionne.
Le complexe de la Jeunette Verte fonctionne plus que jamais avec une belle programmation l'année prochaine. Évidemment, on en parlera sur nos antennes, auditeurs, auditrices, 107FM, Radio Bartas. Merci beaucoup pour ton invitation.
Avec plaisir.
Et quoi qu'il arrive, nous, on restera partenaire de ce complexe et évidemment partenaire de la culture en général. Merci beaucoup à toi, Léo, d'avoir fait la technique aujourd'hui, par en vacances sereinement et tranquillement. Le spectacle, oui, rajoute ce
que tu as. Espère juste que ça ne va pas se passer pour vous de la même manière que la dernière fois qu'il est parti en vacances.
où tout s'est arrêté. Ça devrait bien se passer. En tout cas, il reste quelques places pour s'assurer de ses propres murmures. Le spectacle qui a lieu tout à l'heure avec Julien Clément et Pierre Paulet à la batterie et Julien au jonglage. Restez bien sur les ondes du 107. Le bar est ouvert et puis bah voilà, on est bien, la vie est belle, les oiseaux chantent pour l'instant, pourvu que ça dure. Restez bien sur le 107, on n'y est pas trop mal. On se quitte avec les Scatalites. Tiens, j'avais pas d'autre idée, je suis désolé. Vive Barthas, vive les radios associatives et vive la culture, bien sûr.